Cette main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Karine, bonjour Alain. À tous.
Jardinier de Versailles. Comme hier, vous nous proposez ce matin quelques livres à offrir pour les fêtes.
Et oui, le premier que j'ai choisi est un album pour les enfants, Les Aventures d'Alice Brin d'Herbe. Grâce à Pépé Martin, et oui, Alice et son copain Victor découvrent le monde des insectes. Alors, cette histoire est écrite et dessinée par François Kéméré, et elle permet aux jeunes et aux moins jeunes du prix du plaisir à le lire, je dois vous l'avouer, et bien permet de s'intéresser aux petites bêtes qui gênent et celles qui sont indispensables à la biodiversité. Alice et les insectes qui font même pas peur est publié chez Plume de Carotte à un prix presque cadeau, 9,90€.
Allez, autre livre, Le jardin de Pélinec, qui est l'un des plus beaux jardins de France.
Et oui, il a été créé par Gérard Jean il y a près de 25 ans. Il est labellisé remarquable en 2012. Il présente sur 7 hectares un jardin exotique, un jardin d'iris japonais, un jardin anglais, un étang couvert de nymphéas, ou encore une prairie de magnolia.
Et alors donc, quand Gérard Jean ne jardine pas, il écrit et il photographie.
Et oui, et il vient de publier, et c'est logique, Jardin de Pélinec, l'ivresse des couleurs. C'est un très bel ouvrage de 256 pages, paru aux éditions Ulmer, 35€, je donne le prix, mais c'est vraiment l'occasion de découvrir un lieu d'exception.
Mais c'est où Pélinec?
Alors c'est dans les Côtes d'Armor, c'est un très très beau jardin, vraiment, et le livre est très bien conçu.
Allez, un dernier livre que vous nous proposez, ce dernier livre est un monument.
Oui, il est réservé aux costauds et il est la référence absolue dans le monde de l'horticulture. Quand je dis aux costauds, parce que c'est un sacré bouquin en épaisseur, imaginez 15 000 plantes décrites par une équipe de 50 experts, 6 000 photographies en couleur, 1104 pages. Wow. On est vraiment dans le monumental. Le grand Larousse, 15 000 plantes et fleurs du jardin, c'est le titre. Et donc le cadeau idéal pour tous les amateurs de jardin.
Les grands amateurs, là.
Oui, prévoir 79,90€. Mais en fait, c'est le grand Larousse des plantes. Ouais. C'est vraiment l'ouvrage, je dirais presque indispensable. Et quand on l'a, on n'a plus besoin d'aucun autre ouvrage. C'est pas bon pour ceux qui écrivent des livres.
J'allais dire, on a encore besoin d'un Baraton ou pas?
Bah oui, quand même.
On a toujours besoin d'un Baraton chez soi.
C'est gentil.
Vos réponses, vos conseils aux auditrices, auditeurs d'Inter. Sylvie a une haie de Pythosporum qu'elle taille tous les étés dans la résidence pour permettre aux voisins de voir la mer, dit-elle. Est-il possible de faire une taille courte, c'est-à-dire de moins d'un mètre, pour avoir un branchage moins épais à tailler l'été?
Le Pythosporum, c'est un arbuste que l'on voit souvent dans le sud de la France. Il a des feuilles épaisses, un peu ovales. Il ressemble grosso modo à un oranger du Mexique, mais surtout, il se distingue par une floraison qui embaume la fleur d'oranger. C'est une splendeur. Vous fermez les yeux, vous sentez l'oranger, il n'y en a pas. C'est un Pythosporum. Mais si je dis ça, c'est que si vous taillez le Pythosporum maintenant, vous privez l'arbuste de fleurs pour le printemps, ce qui serait, avouez-le, dommage. Le Pythosporum se taille après la floraison, donc à la fin du printemps, certainement pas maintenant.
Brigitte, à propos d'un fraisier, des fraisiers, quelle est la bonne période pour planter des fraisiers?
Je dirais avec un petit peu d'humour, quand on veut, mais pas maintenant. C'est-à-dire que pour faire très simple, les fraisiers se plantent en mars-avril, au printemps. On peut également les planter en août-août, au mois d'octobre à peu près, mais on ne plante certainement pas de fraisiers, ni en décembre, ni en janvier, et encore moins en février.
Parce que la nature se repose, quoi, c'est tout.
Parce que la terre est trop dure,
parce que les plantes n'aiment pas être déplacées quand il fait froid, parce que le fraisier a besoin de prendre du temps pour s'installer, et puis parce que le fraisier, il est capricieux, et lui, il a décidé qu'on attendrait le printemps.
Brigitte a une courge dans son jardin, une courge qui était un peu grignotée par un rongeur, une souris, dit-elle, probablement. Est-ce que je peux manger cette courge, malgré tout?
Je vous pose la question, Karine, est-ce que vous la mangeriez?
Bah, évidemment.
Oui, moi, ma mémé, elle aurait pris un couteau,
elle aurait coupé
la partie, grignotée, et elle l'aurait mangée. Donc, à moins vraiment d'avoir pour les petites souris une aversion totale, oui, on peut manger ce qui est produit dans le jardin. Mais on voit souvent des radis qui ont été un peu grignotés. Moi, ça ne me dérange pas trop. Mais il est vrai qu'il y a des fois, c'est peut-être des petites bestioles pas très sympathiques. Mais alors, le couteau permet justement...
On taille autour et on mange le reste.
Évidemment.
Comme pour les fruits. Pascal, à présent. Pascal et son très vieux poirier, dit-elle. Pascal avec un E. 1m80 de circonférence, 10 mètres de haut. Il n'a pas produit de poire. Ce vieux poirier est envahissant. Est-ce que je peux le supprimer? Est-ce que je peux supprimer quelques branches mortes ou ne garder que le tronc pour en faire un refuge à insectes?
Vieux poirier n'est jamais envahissant. Il est émouvant. Quand on le regarde, on se dit que cet arbre, il a vécu, il a alimenté une famille, il a connu des gens merveilleux. Alors là, il est en fin de vie. très certainement. Mais vous savez qu'un vieux poirier de 1m80 de circonférence, c'est quand même relativement rare. On peut même dire rarissime. Alors, couper les branches mortes, pourquoi pas si elles prennent de la place? Laisser le bois uniquement pour faire un hôtel à insectes, certainement pas. Non, je crois qu'il faut tout simplement l'accompagner et se limiter à supprimer les branches gênantes.
Colette, à propos des racines d'un cupressus de 40 ans à côté d'une maison, est-ce que les racines peuvent être dangereuses pour cette bâtisse?
J'ai la chance d'habiter dans un parc merveilleux qui a été construit, les premiers travaux datent de Louis XIII et j'habite une maison Louis XIV, elle est entourée de végétation. Je vous garantis que les fondations sont nickel, que l'on arrête de fantasmer sur les racines des plantes. Oui, de temps en temps, elles peuvent créer quelques dégâts, mais arrêtons de fantasmer. Donc non, il n'y a pas de danger. C'est à moins de planter le cupressus à 30 cm, mais donc il n'y a pas de danger.
Parfois, ça soulève les dalles assez fréquemment dans les jardins.
Vous faites allusion à des peupliers.
Un saule pleureur, le peuplier,
le mimosa sont des plantes qui, effectivement, ont des racines traçantes. Mmh. Mais là, vous venez de le dire vous-même. En surface, pas en profondeur. Voilà.
Rapidement, j'ai acheté un Leptospermum Red Damasque en pot. Puis-je le mettre en pleine terre ou faut-il attendre le printemps?
Bon, c'est une plante originaire d'Australie. On l'appelle également l'arbre à thé. Oui, attendez, parce qu'il est quand même frileux.
Alain Baraton, vous reviendrez la semaine prochaine avec plaisir.
Avec joie.